Peut-être, vous vous souvenez, quand je vous ai fait passer un examen de théologie, quand je vous ai demandé de comparer les deux écrits d'Estelle Faguette, celui qu'elle a fait par toute seule, hein, sa lettre, et puis l'ex voto. J'ai employé l'expression quelque chose qui n'était pas tout à fait chrétien. Elle a. Alors un jour, je disais ça, un groupe de, c'était des jeunes pros. Il y en a un qui m'a dit, c'était quoi son hérésie? Ah non. Quand je disais pas tout à fait chrétien, c'est pas dire qu'il y a une hérésie. C'est en référence à cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, lors du dernier repas. Il aime ses disciples jusqu'au bout, hein, comme il nous dit l'apôtre bien-aimé, hein, celui qui écrit l'évangile. Il y a cette parole de Jésus, c'est au début du chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Connaissez-vous cette parole, hein ? Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Cela fait au moins 2 ans que Jésus est avec ses disciples, hein, qu'ils le suivent. Et il semble leur dire qu'ils ne croient pas encore en lui. Croire en Dieu ou croire en Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et cette question, il faut la recevoir nous-mêmes, profondeur, quoi. Nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés. Tout à l'heure, donc à 11h, nous allons célébrer la messe. Et notre foi en Jésus peut encore grandir. Notre foi dans le sens de cette écoute qui est disposition à apprendre à se mettre à son école, mais aussi à fonder notre vie sur lui. Croire en Jésus. Et Jésus dit à ses disciples, avant de les inviter à la foi, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Et à la fin de ce chapitre 14, il reviendra là-dessus. Le trouble. Il se trouve que dans l'évangile de Jean, ce mot « trouble » est employé plusieurs fois, 4 fois au moins. En fait, oui. Et il y a le moment où Jésus dit à ses disciples « ne vous troublez pas ». Et il y a 3 moments où il nous est dit que c'est lui qui est troublé. Et ces 3 moments sont pas anodins. On nous parle du trouble de Jésus 3 fois dans l'Évangile. Leur chercher. Qu'est-ce que pourraient être ces 3 moments? Et je le dis ce matin, dans le dernier jour de la novène. Vous avez achevé la novène, nous l'achevons cette novène dans ce jour de résurrection. Et nous apportons et nous présentons au Seigneur ces nœuds. Ces existences, hein, avec leur poids de douleur, parfois de drame, de ce qui peut sembler inextricable. Le mal, ouais, qui nous frappe et qui nous trouve toujours démunis parce qu'il est irrationnel, le mal. Ils m'ont haï sans raison. Ouais. Et nous aimerions comprendre d'où ça vient. Vous vous souvenez, hein? C'est la parabole de l'ivraie et du bon grain, quoi. Hein? Vous souvenez la question des serviteurs quand l'ivraie est apparue. Seigneur, c'est pas du bon grain que tu as semé, pourquoi y a-t-il de l'ivraie? C'est cette question qui jaillit de nous. Je crois dans le bon Dieu, hein? Le bon Dieu. Et s'il est bon, pourquoi le mal? Et ça ne peut pas me laisser indifférent, quoi, insensible. D'où ça vient ? Que votre cœur ne se trouble pas. Parce que le mien a voulu être troublé, dit Jésus. Plutôt, ce qui nous est montré de ces trois moments où Jésus se trouble, nous révèle cette vérité si belle, et qu'il nous faut accueillir, quoi. Lui a voulu connaître, affronter le mal. Lui seul peut l'affronter, vraiment. Pour nous, il a pris sur lui nos souffrances. Nous l'entendons, hein, cette parole, nous l'avons déjà reçue. Faut aller jusqu'au bout de la vérité. Alors, quels sont ces trois moments où Jésus est troublé ? Le premier, vous le savez, vous vous souvenez, cet épisode, très bien sûr, hein, c'est après la mort de son ami Lazare. Quand Jésus pleure, alors il pleure, si je suis attentif au texte de l'Évangile, il pleure pas la mort de Lazare. Il pleure parce qu'il voit pleurer les sœurs de Lazare et les amis. Il pleure de la détresse du cœur frappé par le deuil, quoi. Parce que c'est contre la nature, quoi. Quand deux êtres spirituels s'aiment, que l'un disparaisse, quoi. La mort est un scandale. Et Jésus pleure de voir ses amis. Il aimait Lazare, il aimait ses sœurs. Il pleure de les voir démunis. Et il ressent dans son cœur, ah oui, qui plus que lui sait ce qu'il y a d'injuste dans la mort, quoi. Hein ? Voilà. Je me souviens, il y a quelques années, une de mes tantes a perdu son mari brutalement dans un accident. Un accident, il a coupé des arbres. Et j'ai appris ça. Mes cousins m'ont demandé de célébrer les funérailles de mon oncle. Et il y avait eu l'évangile de la veuve qui va dire au juge, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Ça m'avait éclairé, quoi. Oui, la mort est notre adversaire, quoi. C'est pas juste. Même si nous disons, oui, la mort est le salaire, mais c'est pas juste. Il y a quelque chose qui répugne. Jésus est troublé à ce moment-là. Il est troublé un peu plus tard dans l'Évangile, alors qu'il vient d'entrer dans la ville de Jérusalem pour la dernière fois et que des Grecs demandent à le voir. Et Jésus emploie cette image très parlante. Il dit, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, mon âme est troublée. Jésus est troublé devant cette condition de l'homme aujourd'hui, il ne peut pas donner la vie sans passer par la mort. Les morts. Hier, j'ai évoqué cette image de la femme qui enfante, la femme qui apparaît dans le livre de l'Apocalypse, et le dragon est là. Un jour, certains de nos frères venus d'Afrique, dans une réunion fraternelle de communautaire, un chapitre, comme on appelle, avaient présenté ce que c'était que l'initiation, les rites d'initiation si importants dans leur culture. Et puis, on leur a posé la question, parce qu'ils ont raconté comment ça se faisait dans leurs différentes cultures. Puis, on leur a posé la question, mais pourquoi il n'y a que les garçons ? Pourquoi que les rites d'initiation ne concernent que les hommes ? Alors, il y en a un qui a dit, chez nous, on dit que pour la femme, c'est Dieu qui s'en charge. Mais il est allé plus loin. Il a dit parce que il y a trois moments dans sa vie où la femme expérimente qu'on ne peut pas donner la vie sans souffrir. Les trois moments, c'est quand elle devient femme, c'est quand elle enfante, et c'est quand elle ne peut plus enfanter. Waouh ! La sagesse des hommes, hein. Ça vient de Dieu. Fort, hein? Il nous a fait hommes et femmes. Mais il y a quelque chose. Hey, pourquoi mourir pour donner la vie, quoi? Pourquoi faut-il? Et l'expression de Jésus, s'il ne meurt pas, il reste seul. Il faut. Mais c'est troublant. C'est troublant, hein? Ça nous laisse démunis. Parce que nous sommes appelés à l'image de Dieu à donner la vie, à être fécond. Et puis il y a la fécondité qui se vit, quand on porte du fruit, quand le bien se répand, il y a des moments de joie. Hein. La fécondité, oui, quand son heure est passée et que l'homme est venu, dit Jésus, la femme ne se souvient plus de sa souffrance. Et le moment du trouble, il est troublé lui aussi. Et là encore, cet homme-là, Jésus, il est plein du désir de répandre la vie. Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance. Tout ce qu'il fait, qu'il dit, toute son attitude montre, hein, il est là pour donner la vie. Et il faut qu'il meure. Ah oui. Et le troisième moment où Jésus connaît le trouble, c'est quand il annonce la trahison de Judas. Cette expérience si terrible. Quand il annonce la trahison, que Judas va le trahir. Quand il annonce que Judas va le trahir et qu'un ami trahisse. Ça aussi, c'est une mort. Hein. Le lien dans lequel on s'est engagé librement, le choix mutuel posé et qui se retourne. Celui qui mangeait mon pain a levé contre moi le talon. Hein. C'est une des citations de l'Écriture que Jésus emploie. C'est un scandale, ça aussi. Cette capacité de l'homme, il y a quelque chose de l'ordre de l'abîme. Hein. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Le baiser qui est le signe de l'amour et devient le signe que tu donnes à ceux qui vont m'arrêter. Cette perversion, quoi. Et c'est parce que tu es mon ami que tu connais ce jardin. C'est parce que tu es mon ami que tu me connais et que tu vas pouvoir dire à ceux qui viennent de nuit, oui, c'est lui. Cette connaissance que tu as de moi parce que je vous ai appelé mes amis, tu la retournes contre moi. Jésus est troublé. Mais Jésus nous dit, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Acceptez que c'est moi qui suis troublé. Ce trouble, qui est celui du cœur de l'homme, vivez-le près de moi. Et laissez-moi le vivre pour vous, en un sens, hein. Et ce que Jean nous dit de cette façon, c'est ce qu'on voit dans les autres évangiles, hein, ce moment charnière dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, hein, ce moment où Jésus interroge ses disciples, « Pour vous, qui suis-je ?» Et Pierre répond, « Au nom de tous, tu es le Christ. » Et Jésus leur dit, « Alors, taisez-vous. Parce que maintenant, il faut que je vous dise, je dois vous enseigner sur quelque chose de nouveau que je ne vous ai pas dit jusque-là. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit tué, qu'il ressuscite. » Eh oui. Et vous vous souvenez de la réaction de Pierre, hein ? « Non, ça t'arrivera pas, Seigneur. » Et il y a même l'évangile qui dit « Pierre, il engueule Jésus, quoi. » Ça vous arrive, t'entends d'engueuler Jésus ? T'entends, il y a des personnes qui font ça, bon... « Mon père, je demande pardon parce que j'ai grondé Jésus, je l'ai engueulé même. » Oui, dis ça. Ah ouais. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que, en tout cas, on se tourne vers lui. Donc, et si on le fait en acceptant qu'il nous conduise plus loin, ça veut dire, passe derrière moi, Satan, hein. Jésus dit ça à Pierre. Satan? Satan, c'est synonyme de démon, de serpent, mais Satan, ça veut dire l'adversaire. Mais l'adversaire, c'est-à-dire celui qui se met en face. Et l'image est très, très parlante, quoi. Jésus dit, je me mets en route. Il faut que j'aille hein, vers mon heure, vers et le lieu où je vis mon heure, Jérusalem. Donc je suis sur le chemin, et toi, tu t'opposes à moi. Ça veut dire que tu m'empêches d'avancer. Non, non, Pierre, passe derrière moi. Et c'est très littéral. Et si tu es derrière moi, là, tu vas marcher derrière moi. Et c'est ce que Jésus dit ensuite. Hein. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Le petit enfant peut faire cela, hein. Vous voyez, devant le danger, ben, il se blottit dans les bras de son père, de sa mère, quoi. C'est toi qui vas affronter, papa, maman. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de me blottir dans tes bras. Moi, je suis trop petit pour affronter. Je suis incapable. Croyez en moi. Et cette parole de Jésus, hein, il dit un peu plus tard, et jusque-là, vous n'avez encore rien demandé en mon nom, quoi. Ces chapitres de l'évangile de Jean, hein, sont un si beau cadeau. C'est ce dernier enseignement de Jésus au moment de son départ, quoi. À ceux oui, qui l'aiment jusqu'au bout, ouais. Il commence par leur laver les pieds. Je me fais votre serviteur. Et là encore, c'est l'inversion des rôles. Oui, accepte que je te lave les pieds. Accepte que oui, c'est moi qui me fais le serviteur. Et donc, le service que je suis venu pour, non pas pour être servi, mais pour servir, dit Jésus, ce service, il va jusqu'au fait de porter le trouble qui est, oui, devant lequel se trouve tout cœur d'homme qui veut vivre, de le porter pour vous. Et pour, à travers ce chemin, vous conduire vers la vie nouvelle. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a dans les évangiles, hein, des enseignements de Jésus sur la prière, au terme d'une neuvaine, hein, on marque la fidélité à la prière. Hein, et quand Jésus dit, c'est dans la... Quand il emploie la parabole, hein, ben justement, de cette veuve qui va voir son juge en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire hein. ». Vous savez, c'est un juge qui ne craint pas Dieu et qui se moque des hommes hein, et qui va répondre à cette femme parce qu'il a la migraine. Hein, c'est ça, il dit « Elle me casse la tête, quoi, elle me rend. Hein, j'ai mal à la tête, je vais lui rendre justice. » Et Jésus dit « Écoutez ce que dit ce juge, quoi. » La femme qui est complètement démunie, elle a réussi à être plus forte que lui, tout simplement parce qu'elle est venue avec cette certitude qu'elle est dans son droit. Rends-moi justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À ce moment-là vient cette question. Est-ce qu'il la trouvera dans nos cœurs? Et dans ces moments-là, quoi? Dans ces moments où nous sommes démunis? Oui, il la trouve. Mais alors justement, c'est une neuvaine à Marie. Et une neuvaine à Marie parce que c'est elle qui a... Elle est le modèle de la foi. Monseigneur Jérôme Beau, donc l'évêque de ce diocèse dont je vous disais qu'il est très... Tout ce qu'il a fait là pour que résonne l'invitation hein, que Marie a adressée ici de venir hein, se mettre à son école. Un jour, il méditant sur le samedi saint, ce jour si dit, c'est-à-dire qui nous le trouve très démunis, hein, le jour où l'Église se prive des sacrements. On ne célèbre pas la messe. Aucun sacrement, sauf le sacrement de réconciliation, ou, oui, ou alors, comme disait mon professeur de droit ecclésiastique, en cas de mort, il faut simplifier la vie des gens. Hein. C'est vrai, pour le mourant, on peut tout faire. Ouais. Mais un jour où les églises sont nues, vides, et qui nous rappellent le temps où Jésus a été dans le tombeau, séparé. Et Mgr Beau dit, ce jour-là, la foi et l'espérance de Marie sont la petite flamme qui demeure et qui permettra d'allumer le cierge pascal. La foi et l'espérance sont demeurées en elle. Et puis, on le sait, hein, le cierge pascal, tous nous allumons notre cierge. Et puis, quand on entre dans l'église, c'est beau, hein, la vigile pascale, hein, ce symbolisme. Ouais, elle se... Quand on partage et le diacre ou le chant dans l'exultète, quoi, hein, sa clarté ne diminue pas quand on la partage, au contraire. La foi de Marie. Alors, ce matin, je voulais vous parler d'un moyen qui nous est donné, que vous connaissez, que nous connaissons, pour justement croire en Jésus. Avec Marie. Et ce moyen, c'est le rosaire, c'est le chapelet. Il y a des apparitions, Lourdes, Fatima, où Marie a montré hein, le chapelet. Ici, Pellevoisin ne l'a pas montré, mais dans le récit que Estelle nous a livré, on lit que plusieurs fois, c'est quand elle priait le chapelet ou quand elle l'a terminé, Marie attend qu'elle l'ait terminé, hein, qu'il y a eu des apparitions. Et le chapelet, hein, Saint Jean-Paul II avait dit très vite au début de son pontificat que c'était sa prière préférée. Et il lui a consacré, c'était alors, je crois bien en 2002, oh ben c'est vrai, il faut que j'aille à la fin pour... la date. Et le 16 octobre 2002, c'est bientôt l'anniversaire, il lui a consacré une exhortation apostolique sur le rosaire de la Vierge Marie. Et je voudrais d'abord m'appuyer sur des choses qu'il y dit et qui sont une belle chose. Je le cite. J'ai senti la nécessité de développer une réflexion sur le rosaire. Pourquoi il écrit ça? J'ai senti cette nécessité pour exhorter à la contemplation du visage du Christ en compagnie de sa très sainte mère et à son école. En effet, réciter le rosaire n'est rien d'autre que contempler avec Marie le visage du Christ. Contempler. Réciter le rosaire, c'est contempler. Il va y revenir, hein, avec Marie. Le visage du Christ. S'il est redécouvert dans sa pleine signification, commentaire, ça veut dire que le rosaire est un trésor, mais peut-être, oui, même le pape nous dit, il faut redécouvrir sa pleine signification. Attention de ne pas passer à côté de sa richesse qui pourrait être un peu enfouie. Et donc, s'il est redécouvert, le rosaire conduit au cœur même de la vie chrétienne. Tiens, je vous dis, elle n'était pas vraiment chrétienne. Au cœur même de la vie chrétienne. Et offre une occasion spirituelle et pédagogique ordinaire mais féconde pour la contemplation personnelle, la formation du peuple de Dieu et la nouvelle évangélisation. T'as tout compris. Quand je dis tout compris, tout est là, hein. La formation personnelle, plutôt la contemplation personnelle, la formation du peuple de Dieu et la nouvelle évangélisation. Et il y insiste encore en disant « La raison la plus importante de redécouvrir avec force la pratique du rosaire est le fait que le rosaire constitue un moyen très valable pour favoriser, s'il est fidèle, l'engagement de contemplation du mystère chrétien, que j'ai proposé dans la lettre apostolique, ce qu'il avait écrit pour le nouveau millénaire, hein, comme une authentique pédagogie de la sainteté. L'engagement de contemplation du mystère chrétien. Avons-nous tous choisi cet engagement de contempler le mystère chrétien? Le mot contempler, il fait partie de votre vocabulaire, de votre pratique? Nous connaissons, je pense tous, l'épisode évangélique de Marthe et Marie. Oui. La semaine dernière, il était à la lecture de la messe, je crois, c'était la semaine dernière. Bon, là, j'ai pris conscience. Il m'arrive quand même assez souvent, comme prêtre, quand j'accueille quelqu'un, d'entendre « Mon père, vous savez, moi, je suis plus Marthe que Marie. » C'est très rare qu'on m'a dit « Moi, je suis plus Marie que Marthe. » Très, très rare. Tiens, pourquoi? Oui, est-ce que c'est de la modestie? C'est de la modestie. Peut-être, de temps en temps, je crois que c'est un oreiller de paresse. Et l'expression « l'oreiller de paresse », vous savez, le petit truc bien confortable qui t'offre une bonne excuse pour refuser l'obstacle ou pour pas aller plus loin. S'engager à contempler, à regarder. À contempler, c'est regarder dans l'amour. De façon un peu triviale, on pourrait dire, hein, c'est ce qu'on fera au ciel, donc autant s'y préparer, quoi, s'y entraîner. On fera ça pendant l'éternité, dont nous avons dit qu'elle durait longtemps. Dieu est contemplatif, mais... Oui, là encore, hein, c'est vrai, des moments de contemplation naturels, on peut en connaître, hein, les moments de plénitude, où il y a une illumination... Hein, et qui remplit pas simplement l'intelligence, tout le cœur. Hein. Et là, parfois c'est contempler le visage d'un enfant, d'un petit. À Noël, on apprend à contempler les tout-petits. L'engagement de la contemplation. Une authentique pédagogie de la sainteté. Le pape dit un peu plus loin, de nombreux signes montrent ce que la Sainte Vierge veut encore réaliser aujourd'hui, précisément à travers cette prière. Cette mère attentive à laquelle, dans la personne du disciple bien-aimé, le Rédempteur confia au moment de sa mort tous les fils de l'Église, « Femme, voici ton fils ». Au cours du XIXe et du XXe siècle, les diverses circonstances au cours desquelles la mère du Christ a fait en quelque sorte sentir sa présence et entendre sa voix, pour exhorter le peuple de Dieu à cette forme d'oraison contemplative, sont connues. En raison de la nette influence qu'elles conservent dans la vie des chrétiens, et à cause de leur reconnaissance importante de la part de l'Église, je désire appeler en particulier les apparitions de Lourdes et de Fatima. Donc Marie elle-même nous le rappelle. La contemplation du Christ trouve en Marie son modèle indépassable. Le visage du Christ lui appartient à un titre spécial. C'est dans son sein qu'il s'est formé, prenant aussi d'elle une ressemblance humaine qui évoque une intimité spirituelle assurément encore plus grande. Personne ne s'est adonné à la contemplation du visage du Christ avec autant d'assiduité que Marie. Son regard ne se détache jamais de lui. Et alors, Jean-Paul II énumère, hein, déploie, oui, comment est ce regard? Un regard interrogatif, un regard pénétrant, un regard douloureux, un regard radieux, un regard ardent. Toutes les variations, quoi, de ce regard, et qui disent, oui, ce chemin de contemplation. C'est précisément à partir de l'expérience de Marie que le rosaire est une prière nettement contemplative. Et là, écoutons là, privé de cette dimension, il en serait dénaturé comme le soulignait Paul VI. Citation de saint Paul VI, un saint cite un autre, « Sans la contemplation, le rosaire est un corps sans âme. » Pouf ! Un corps sans âme, c'est un cadavre, hein ? Disons-le clairement. Je reprends, « Sans la contemplation, le rosaire est un corps sans âme. » Et sa récitation court le danger de devenir une répétition mécanique de formules. Et sa récitation court le danger d'agir à l'encontre de l'avertissement de Jésus. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. C'est d'un très concret, et le pape continue, alors Jean-Paul II reprend la parole. « Par nature, la récitation du rosaire exige que le rythme soit calme et que l'on prenne son temps, afin que la personne qui s'y livre puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur, vue à travers le cœur de celle qui fut la plus proche du Seigneur. » Alors il nous dit, « Prier le rosaire, c'est se souvenir du Christ avec Marie, le souvenir. » C'est « Par Marie, apprendre le Christ ». Je vous lis que les titres. Après, pourquoi pas aller lire. Il y a 30 pages, ce n'est pas si long ce document. « Par Marie, apprendre le Christ ». Donc, se souvenir, apprendre le Christ, puis se conformer au Christ avec Marie. Tiens, là, oui, il y a quelque chose. Le vêtement, ici, que Marie a montré, se revêtir du Christ, c'est... Se revêtir dit le désir de se conformer, quoi. On prend le vêtement pour devenir semblable à lui, quoi. Il me revête et que peu à peu je sois tellement revêtu que ce soit moi. Supplier le Christ avec Marie, aussi bien sûr, et annoncer le Christ avec Marie. Ensuite, Jean-Paul II, dans un chapitre suivant, nous dit « Le rosaire est un résumé de l'Évangile. » Et c'est pour ça que, en 2002, il avait innové, il m'a dit, afin de lui donner une consistance plus christologique, il me semble qu'un ajout serait opportun de prendre en compte les mystères de la vie publique du Christ. Jésus a déclaré « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et donc, on a appelé ces mystères les mystères de lumière. De fait, quand je réfléchis, je me dis « Mais comment on a fait pour attendre si longtemps ?» De passer de Jésus à 12 ans jusqu'à Jésus à l'agonie. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Et les mystères de lumière. Ah, heureusement qu'il nous a été donné, c'est un beau cadeau. Et il nous dit qu'il faut redécouvrir. De fait, j'ai eu la grâce d'aller sur l'île de Patmos et à Éphèse, donc c'est ce qui est aujourd'hui la Turquie, et donc aussi de découvrir à cette occasion nos frères d'Orient, leur façon de prier. Et ça m'avait marqué, c'était peu de temps avant, quoi. Dans les icônes devant lesquelles ils prient les images, il y avait les mystères de joie, les mystères douloureux, les mystères de gloire. Mais il y avait aussi, et il y a depuis si longtemps, ce que nous on appelle les mystères lumineux. L'icône du baptême de Jésus, l'icône de Cana, l'icône de la transfiguration, bien sûr. Et puis de la scène. Allez. Et alors, et le temps file. Mais je voudrais souligner, je vais finir de lui donner la parole et dire encore deux autres choses. Donc, Jean-Paul II dit, il y a les mystères de joie. Alors, il a proposé, nous le savons tous, quand est-ce qu'il proposait qu'on célèbre les mystères de joie. Mais il le dit bien, d'ailleurs, c'est une proposition, soyez libres, selon le temps liturgique, c'est juste, c'est sûr que si l'Annonciation tout tombe un vendredi, tu pourrais te dire, je vais dire quand même le mystère de joie aujourd'hui, quoi. Il dit, ces cycles de méditation proposés par le Saint-Rosaire ne sont certes pas exhaustifs. Parce qu'il y a 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait que 20 épisodes. Il y en a d'autres dans la vie de Jésus. Mais il rappelle l'essentiel et donnant à l'esprit le goût d'une connaissance du Christ qui puise continuellement à la source pure du texte évangélique. Ça veut dire c'est un bon entraînement, une bonne introduction. Méditer les mystères, ces 20 mystères, ça doit nous renvoyer à l'Évangile. Et d'accueillir, parce que ça ordonne aussi, hein, d'une façon très claire, et je vais y revenir un peu avec cette succession ou ce cheminement plutôt, cette progression, joie, lumière, douleur et gloire. Mais, disent Jean-Paul II, ça doit nous donner goût de revenir à la source pure du texte de l'Évangile. Le premier soir, il en est parmi nous qui m'ont dit, hein, ils reçoivent chaque jour un petit commentaire de l'Évangile du jour, fait par d'ailleurs c'est une coïncidence, un des frères de notre communauté, quoi. Et leur témoignage montrait, il y a une parole vivante, quoi. Le texte de l'Évangile, c'est une vraie sagesse. Y revenir continuellement. Jésus n'a rien écrit lui-même, mais des hommes ont écrit, portés par l'Esprit. Alors, Jean-Paul II dit, c'est à chaque baptisé que s'adresse le souhait ardent de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Le rosaire se met au service de cet idéal. Mais là, idéal ne veut pas dire quelque chose qui est inaccessible. Mais qui dit, nous l'atteindrons vraiment, cette connaissance de l'amour du Christ, et quand il nous accueillera auprès de lui. Mais le rosaire se met au service de cet idéal, livrant le secret qui permet de s'ouvrir plus facilement à une connaissance du Christ qui est profonde et qui engage. Connaissance profonde, ça veut dire aussi qu'il me rejoint dans ce que je suis, pas superficiel, pas de l'ordre de l'information. Il y a tellement de choses, des informations dans notre monde, hein. Des choses, je sais, mais si je ne les savais pas, ma vie ma vie ne serait pas changée, quoi. Mais qui, profonde. Et si nous y réfléchissons, c'était la philosophe Simone Veil qui mettait ça en lumière. Elle disait, chaque être a des vérités très profondes et quelques-unes. Hein. Alors, je ne vais pas dire combien il faut de doigts de la main pour les compter, mais des choses qui sont comme des axes auxquels on revienne, de ces vérités qu'on approfondit, hein, et qui construisent notre vie, qui donnent des fondements. Voilà, une connaissance profonde du Christ qui est profonde et qui engage. Nous pourrions appeler le rosaire le chemin de Marie. Chemin de Marie qui contemple le Christ. Et Jean-Paul II poursuit, et en même temps, le mystère du Christ, c'est le mystère de l'homme. Celui qui se met à contempler le Christ en faisant mémoire des étapes de sa vie ne peut pas ne pas découvrir aussi en Jésus, dans le Christ, la vérité sur l'homme. Apprendre qui il est nous fait apprendre qui nous sommes et qui est notre frère, qui est notre sœur, qui est l'homme. On peut dire que chaque mystère du rosaire bien médité éclaire le mystère de l'homme. Ah oui. Et puis, il parle bien sûr du fait de dire, puisque je découvre l'homme, il devient naturel d'apporter à cette rencontre avec la sainte humanité du Rédempteur les nombreux problèmes, préoccupations, labeurs et projets qui marquent notre vie. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Méditer le rosaire consiste alors à confier nos fardeaux au cœur miséricordieux du Christ et de sa mère. Oui, vraiment, le rosaire donne le rythme de la vie humaine pour l'harmoniser avec le rythme de la vie divine dans la joyeuse communion de la Sainte Trinité qui est la destinée et l'aspiration ultime de notre existence. Cette phrase, hein, le début, le rosaire donne le rythme de la vie humaine. C'est tellement important le rythme, un rythme chrétien, un rythme au souffle de l'esprit. Voilà un moyen. Oh, ça reste un moyen, mais grandement recommandé, quoi. Et alors, il est très concret, le pape. Il continue en disant, mais alors le rosaire, il est contemplation du Christ, chemin avec Marie, hein, chemin où on suit Jésus sur le chemin, et on connaît le Christ, et on connaît l'homme, et on se connaît soi-même, et on connaît tout homme dans le Christ. Il dit, mais le rosaire, techniquement, c'est en fait répété. Il dit, mais la répétition, elle a du bon, elle fait partie de la pédagogie. C'est une méthode valable. Oui, oui. Alors, c'est parce que certains la décrivent, mais ah, oui. Si c'est une répétition qui est habitée, c'est une répétition qui donne, il y a quelque chose de commun, on dit la même prière et en même temps on chemine. Et la répétition nous aide à vivre, à nous entrer dans cette continuité, mais elle peut être améliorée. Et là, de façon très concrète, Jean-Paul II dit comment méditer les mystères ? Comment ça se passe, quoi ? J'ai le premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Je l'ai dit. Puis après, je vais dire « Dis, je vous salue Marie ». De temps en temps, on dit « Fruit du mystère ». Ça varie, les fruits du mystère. Comment on fait ? Alors, là, il dit « Énoncer le mystère ». Le rosaire ne remplace pas la Lectio Divina, mais il dit, il faut l'énoncer. Il faut se dire, je mets devant ce moment-là, ce tableau, ce moment de la vie de Jésus. Et il dit, mais et si tu fais ça, ça ne remplace pas le fait de lire la Bible, mais ça présuppose la lecture de la Bible et ça la promeut. Et ça y engage. Et de fait, je vais vous dire, dans mon témoignage personnel, j'aime beaucoup la Bible, mais le rosaire m'est renvoyé souvent. Ah oui, parce que je médite un mystère, et puis quand le méditant, je me dis, mais ah ben, comment ça s'est vraiment passé ? Et puis là, je me rends compte que, ah oui, t'as des images, t'as un imaginaire, mais ah oui, il faut que je revienne au texte. Pour que le regard que je pose sur cet événement, sur cet épisode, sur ce qui s'y joue, il soit comme Dieu nous l'a révélé. Et puis, le fait de le méditer ensuite en disant le rosaire fait que cette parole que j'ai lue, eh bien, elle s'enracine plus en moi. Puis comme le pape l'a dit, le rosaire, il accompagne ta vie. Et donc, je ne peux pas dire le rosaire sans y être avec ce que je suis. Mais viens, venez comme vous êtes. Et donc, aussi, cette parole qui est dans l'écriture, qui est dans le livre, cette parole, elle va rejoindre la situation où je suis, la situation où sont ceux pour qui je prie. Elle va éclairer, consoler, orienter. Ce va-et-vient entre cette prière auprès de Marie, avec ce caractère répétitif, et puis le texte de l'Évangile. Alors le pape dit, il serait utile que l'énoncé du mystère soit suivi de la proclamation d'un passage biblique correspondant. Bon, ben, quand on est en voiture, ça m'a... Ouais. Les voyages en voiture tout seul sont l'occasion, ça m'aide souvent, donne l'occasion de dire le chapelet. Bon, c'est plus difficile de lire, d'ailleurs, je n'ai pas le droit. Non, je ne le ferai pas. Mais peut-être que je vais essayer de me souvenir. Et puis, eh ben justement, tiens, je vais mémoriser un petit peu. Puis je vais faire effort et pourquoi pas prendre le temps de se dire, tiens, qu'est-ce que je me souviens de cet épisode? Qu'est-ce que je me souviens de l'évangile, du texte de l'évangile? Et puis à l'occasion, j'y reviendrai pour vérifier. Et Jean-Paul II nous dit, prends le temps, prends ce temps-là. Et ensuite, il nous dit, ben, on répète et on répète surtout le Je vous salue Marie. Et il dit, il y a dans la prière du Je vous salue Marie un centre de gravité. Alors je vous cite. Le centre de gravité de l'Ave Maria, qui est presque comme une charnière entre la première et la seconde partie, est le nom de Jésus. Alors c'est encore plus vrai en latin et dans certaines langues qu'en français. Parce que nous, on dit « Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». Mais dans le pas mal, on dit « Et le fruit de vos entrailles, est béni, Jésus ». Puis après, Sainte Marie. Alors il dit « C'est justement par l'accent qu'on donne au nom de Jésus et à son mystère que l'on distingue une récitation du rosaire significative et fructueuse. » Jésus. Jésus qui va vers Jean pour recevoir le baptiste, pour recevoir le baptême. Jésus dont le visage devient brillant comme le soleil. Jésus qui prend le pain, le donne à ses frères. Jésus dont Marie découvre dans la nuit de Noël le visage pour la première fois. Voilà le visage de Dieu, qui le voit le Père. Jésus. Alors Jean-Paul II suggère, et je vais un peu, moi, prolonger sa suggestion, il nous dit, il y a une pratique qui est louable, et cette pratique, c'est quand on dit le « Je vous salue Marie », d'ajouter à Jésus quelque chose, des mots qui nous permettent de mettre devant les yeux de notre esprit ce que nous contemplons. On appelle ça des clausules. Alors, tous les juristes disent, oui, on sait ce que c'est qu'une clausule dans, dans un contrat, une petite clause. Et je vous partage que ça fait quelques années, que la plupart du temps, presque maintenant tout le temps, quand je dis le rosaire, je m'applique à ça. Et Jésus, le Verbe qui prend notre chair. Et Jésus, alors, oui, qu'est-ce que moi je tutoie Marie. Et Jésus, dont tu ne comprends pas la réponse quand il vous dit « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» Et Jésus qui redescend à Nazareth en vous étant soumis. Alors il y a la continuité, je dis le même « Je vous salue Marie ». Et sur ce fond-là, il y a, elle, devant l'esprit, les yeux de notre esprit, cette scène, ce qui s'y passe, ce qui s'y joue, les paroles qui sont énoncées. Et il y a une vraie formation, là, à travers. Et, oui. C'est enregistré, mais tant pis. Vous le répéterez une seule personne à la fois. J'avoue que le fait de faire ça m'a conduit à m'affranchir un peu de l'énoncé très strict des mystères. Je souligne tout particulièrement pour les mystères douloureux. Parce que l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et Jésus sur la croix sont des moments importants. Mais dans le chemin de la croix et dans le chemin de la passion, il y en a d'autres qui ne sont pas moins importants. Je veux dire l'arrestation de Jésus, le baiser de Judas, Jésus face au grand prêtre, ce témoignage si beau qu'il rend, au moment où il est complètement démuni, et quand vient son heure, il dit oui. Oui, vous verrez le Fils de l'homme venir dans la gloire. Les outrages qu'il subit là, Il n'a pas été que flagellé. Il a été frappé. On lui a craché dessus, on lui a voilé le visage, on lui a dit « fais le prophète ». Bref, tout ce qu'il y a dans le chemin de croix, quoi. Et quand nous vivons le chemin de croix, hein, ça nous aide. Les évangiles, dans le texte des évangiles, hein, la part qui est donnée à ce moment-là est si importante, quoi. On voit, hein, même du point de vue, je veux dire, quantitatif, quoi. Et on nous donne des détails, et chaque évangéliste a sa façon. Et ces détails, ils comptent. Et si, je me dis, si c'est avec Marie, oui, ce souvenir, ah oui, avoir la liberté de suivre tout cela. Les réponses de Jésus face à Pilate. Oui, pourquoi pas, le moment où il est même moqué par Hérode. Bref, voyez, suivre Jésus sur ce chemin. Alors, et je termine, vraiment, je promets, je termine. Peut-être que je redirai quelque chose, mais il y a aussi cette pédagogie qui est dans la succession. Le mystère du Dieu fait chair, croire en Jésus, c'est d'abord croire en la joie. Croire en Jésus, c'est d'abord croire dans ce don qui est fait gratuit. Il s'est penché sur son humble servante, dit Marie. Le puissant a fait pour moi des merveilles. Et c'est quoi? Il me donne, il se donne à moi, et il me donne de mettre au monde Dieu lui-même. Quelle joie! La présence! Croire en Jésus, c'est croire en la joie. Croire en Jésus, c'est accueillir une lumière sur notre existence. Une lumière sur les choix à poser, sur la manière d'être en chacun, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Une telle sagesse, quoi, pour nous-mêmes, nos communautés, nos familles. Il nous apprend la vérité sur notre vie. Et l'histoire de ce monde le montre, hein. Je pense tout particulièrement aux enseignements de Jésus par rapport à la... Comment réagir face au mal, quoi? Quand on voit le déchaînement de la haine, de la violence, je pense à ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, quoi, l'engrenage de la violence, les paroles de Jésus qui, dans l'Évangile, peuvent paraître un peu scandaleuses quand on te gifle sur une joue tant l'autre, hein, les paroles où il dit qu'il y a un moyen de sortir de la violence. On pourrait se dire que c'est une utopie. Et quand on regarde la réalité, on se dit « mais en fait, c'est ça la vraie sagesse ». Car si on fait pas ça, on se détruit, quoi. Il y a une vraie lumière dans les paroles de Jésus. Quand il nous rend attentif au tout petit. Et croire en Jésus, ah oui, c'est mettre nos pas dans les pas de celui qui a voulu porter sa croix. Parce que la croix est le lot de tout homme. Et en le suivant... Sans comprendre, mais lui sait, en le suivant, laisser son esprit mettre en nous la confiance qu'il y a dans son cœur de fils bien-aimé et la douceur, la miséricorde, la compassion qu'il déverse même sur ceux qui lui font ce mal. Et bien sûr, croire en Jésus, c'est le laisser nous ouvrir à la promesse et même à la réalisation, c'est vrai. Notre vérité, c'est que nous sommes appelés à vivre auprès de lui, de sa vie, de la vie même de Dieu.